Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After avec les 4 drôles de dames, Joël Laurence, Edgar Grelot, Daniel Emmanoussia et Paulo Breitner, RMC 20h46. Ensemble jusqu'à 22h, envoyez vos messages sur le chat, n'hésitez pas. Nicolas nous demande sur le chat notamment, ce serait intéressant de savoir quelles vont être les révélations des drôles de dames dans le championnat respectif. On a commencé justement, Rodrigo Mora pour Edgar, on va prolonger avec l'Angleterre, l'Allemagne et Edgar justement. Tiens, Edgar, ta révélation en 30 secondes en Liga.
John Martin, le défenseur de la Real Sociedad. Je prends les paris. Il sera. Alors, il avait été sélectionné une fois avec l'Espagne, mais c'était un poste de réserviste un peu bizarre. Je pense qu'il sera en sélection. Et je pense qu'à la fin de saison, il part pour plus de 50 millions en PL ou dans un grand club sans trop de.
Tout simplement. C'est noté. On met ça de côté, ouais. Évidemment. Avant de prolonger les débats sur les championnats étrangers, la Ligue 2, troisième journée, ça se passe à Reims. Reims, Annecy, sous les yeux d'Arnaud Valadon, coup d'envoi. Qui a été donné. Arnaud, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Depuis 1 minute 30, 0-0 Annecy, 2 victoires en 2 matchs. Reims, 2 matchs nuls en 2 matchs. Des trajectoires un petit peu opposées. Les Rémois qui vont vouloir chercher la confiance pour cette deuxième réception de suite à domicile. Mais l'événement, c'était avant le coup d'envoi. Hugo Ekitike de passage chez lui. Il est né ici, formé ici, toujours en convalescence. Et il a été chaudement acclamé.
Qu'est-ce que tu pensais de cette tenue affectif. Ton avis, cette tenue ce soir.
Alors, Najim m'a soufflé, et je suis d'accord, votre producteur, un mauvais village people.
Un mauvais village people, suis... carrément, là tu balances.
Ouais, c'est une petite veste en jean, d'accord. Sans manches, et c'était pourquoi pas terrible. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Je vais devoir essayer, en tout cas, revenir à RMC avec mon cher.
Alors
mon
peut-être
cher
que toi, ça va t'aller.
Ouais, c'est possible. Tout à l'heure, Arnaud, pour ce match.
Ah, tout à l'heure.
Et les gars, il y a un match ce soir. Julien, chez toi, il y a un Fulham Chelsea.
Magnifique.
Avec deux coachs qui vont se retrouver, c'est magnifique aussi. D'un côté, t'as Arbeloa, de l'autre, t'as Alonso, Xabi Alonso.
Ouais. C'est merveilleux. Le derby, ancien coéquipier, bien sûr, à Liverpool, il y a quelques années quand même. Ensuite, après, ils sont très amis déjà. Et puis ensuite, l'un a succédé à l'autre, bien sûr, chez Edgar, la semaine dernière. Et là, ils se retrouvent comme ça en Angleterre. C'est le foot, parfois.
Hein, là, franchement, voilà. Coup d'envoi imminent. Ce sera à partir de 21h. On vous tient informé de l'évolution du score et des matchs. Hein. Je pense que le Osasuna Levante doit être regardé par 3 personnes en France. 0-0 après une heure de jeu, hein, mon cher Edgar. Je pense que tu as un œil dessus quand même, parce que tu es professionnel. On a aussi la Roma Fiorentina hein, qui commence à l'instant, justement. La Roma qui lance sa saison avec beaucoup d'espoir, mon cher Daniel. Hein.
Oui. Il y a tout de suite Mora et Mastantuono sur les terrains.
Eh ben super, on en parlera aussi dans un instant. Retour en Première Ligue, Julien, parlons des coachs et des joueurs français, le premier week-end notamment de Pierre Sage, qui va d'ailleurs récupérer un ancien international français dans les prochaines heures. Pierre Sage, en l'occurrence, c'est notre ami Disasi, Axel Disasi, mon cher Julien, c'est
Disasi,
ça.
Effectivement, et puis il aimerait bien aussi être Boudlal de Rennes. Il aime beaucoup Nil El Hanaoui de la Roma, les deux Marocains. Ouais. Le mercato, en tout cas, est pas fini pour Crystal Palace. On va beaucoup parler, forcément. On va beaucoup regarder ce que Pierre Sage fait en Angleterre. Il est très attendu. Je pense que lui attend beaucoup de lui-même aussi. C'est un énorme challenge, même par rapport à ce qu'il a pu connaître en France, à Lyon et ensuite à Lens. C'est le niveau au-dessus. C'est la Première Ligue. Ça avait toujours été son rêve de venir coacher ici. Donc, on va souvent le regarder ces week-ends, pendant les week-ends. On va aussi suivre Le Bris. Et c'est deux saisons très intéressantes. Et pour Sage à Palace et pour Le Bris à Sunderland. Pour Le Bris, c'est la saison de la confirmation finalement. Sunderland qui a été exceptionnel avec lui la saison dernière, qui s'est qualifié pour une Coupe européenne, qui a
envoyé l'oseille cet été également. Quand même, sur le mercato aussi.
Oui, alors pas autant que la saison précédente, mais d'avoir gardé Lefebvre, d'avoir gardé Tchaka, d'avoir gardé Brobé, et puis d'avoir rajouté un Thomas Meunier. Ils viennent de signer un jeune Congolais qui vient aussi d'Anvers et de la Belgique. Mais donc ça va être intéressant pour Régis de prouver à tout le monde que c'était pas finalement de la chance ce qui s'est passé la saison dernière. Et pour Pierre Sage, c'est de convaincre les Anglais. On a beaucoup de questions sur mais est-ce que c'est vraiment un bon entraîneur, qu'est-ce qu'il a fait en France. Et donc les Anglais attendent vraiment, ils sont en train ils vont juger sur ce qu'ils vont voir. Et pour lui d'arriver cette saison avec quand même beaucoup de changements d'entraîneurs, hein. C'est quand même 9 entraîneurs différents sur les 20 clubs de Première Ligue qui ont changé cet été. Si tu rajoutes des Zerbi qui finalement n'a eu que 5 matchs l'année dernière, ça fait la moitié des clubs qui ont un nouvel entraîneur. cette saison, donc il en fait partie, Pierre Sage. Et c'est vrai que le week-end a été un peu compliqué pour lui. Je pense qu'il s'est vite rendu compte de, dans un sens, de la brutalité de la Première Ligue où son équipe de Palace a plutôt bien joué en première période. Ils ont eu des occasions à Everton. Mateta, par exemple, frappe sur le poteau. Ils auraient pu marquer aussi en seconde période. Au final, ils perdent 2-0 sans que je pense qu'ils comprennent vraiment très bien comment ça s'est passé. Mais il y a eu une erreur qui fait sur le premier but une mauvaise relance, et le deuxième but un centre magnifique d'Endia, une tête de Tchernobari, et puis voilà, le match il est terminé. Donc c'est l'apprentissage aussi pour Pierre Sage et pour son équipe, même s'il y avait encore du positif, j'ai trouvé, malgré la défaite. Et pour Sunderland et Le Bris aussi du positif, même s'ils prennent un but sur une grosse erreur de relance à la 90e qui leur coûte le match nul. Il y a encore beaucoup de progrès à faire pour eux aussi. Ça c'est les débuts, on va dire plutôt négatif et contrasté, on va dire, pour les deux entraîneurs français de Première Ligue. On a vu un très bon Ryan Cherki qui était frustré d'être sur le banc de touche encore côté Manchester City pour la première d'Enzo Maresca à l'Etihad en championnat, donc lui pour l'après Guardiola et le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle ère. Il est entré en jeu, il a fait la différence. Je comprends pas comment on peut le laisser sur le banc, mais ça vous le savez.
De toute façon, tout ce qui fait la différence quand il entre en jeu, Julien. Tu vois, enfin, c'est toujours compliqué, quoi. C'est un homme sur une dernière demi-heure qui est sûrement plus efficace que sur une heure au coup d'envoi du match. Parce que t'en penses,
mais. Si je suis d'accord avec toi. Non. Oui, mais après, on le dit ça parce qu'il l'a fait hier, mais.
Il l'a fait plusieurs fois également sur une dernière. Bon, après, il a marqué.
Oui, c'est sûr. Il est titulaire aussi. Titulaire. Tu vois, il finit avec 16 passes décisives et 11 buts sur la saison. Donc, à voir ce que Maresca va faire, mais c'est sûr qu'entre Foden et Cherki, parce qu'il peut pas vraiment jouer ensemble non plus, il va falloir choisir un moment, ça va être compliqué. Mais en tout cas, là, il a sorti City, qui était vraiment dans une mauvaise posture. Il fait passe d'aise sur un coup de pied arrêté pour le premier but. Il fait une passe magnifique pour Guardiola sur le but vainqueur à la 91e. Donc pour lui, très beau week-end. Et puis j'ai choisi finalement l'humiliation et le pire pour Aston Villa, Unai Emery et surtout donc Bouba Camara, pour continuer dans le thème des Français. J'ai rarement vu, alors ils avaient plutôt bien commencé, mais ils ont eu 20 minutes où ils prennent 4 buts, où ils s'écroulent complètement, ils se font humilier à Brighton par une équipe de Brighton qui est une bonne équipe, qui à mon avis va faire encore une belle saison avec Hurtzeler, mais qui n'a rien changé par rapport à la saison dernière. C'est quasiment les mêmes joueurs, c'est la même philosophie, tu savais très bien à quoi t'attendre, et au final tu baisses les bras après avoir reconnu le premier but. Et sincèrement, c'était cataclysmique et sincèrement honteux ce qu'a fait Aston Villa dans cette rencontre, surtout en première période. Et moi, on le verra après dans les crashs.
Tu peux y aller maintenant, vas-y, puisque c'est ton crash.
Moi, je suis très inquiet pour Aston Villa.
C'est-à-dire inquiet à quel niveau? C'est-à-dire
dans le sens où déjà ils ont perdu tous leurs meilleurs joueurs, c'est quand même assez fou. Et je pense pas qu'on ait chez nous sur les 10 dernières années des équipes du top 5, top 6, on va dire, comme Aston Villa la saison dernière, ouais, des équipes qui sont en Ligue des Champions, qui lors du même été, lors du même marché des transferts, voient partir leurs 5 meilleurs joueurs. Parce que Martinez va partir, Konsa est déjà parti, Tielemans est parti, Digne est parti, et Rodgers est parti, et Watkins va partir aussi sûrement en Arabie Saoudite. Donc c'est que tu perdes un super joueur, deux super joueurs que tu as besoin de vendre parce que tu as besoin de liquidité, je peux très bien le comprendre. Que des joueurs aient envie d'aller dans des plus gros clubs, tu peux le comprendre. Mais de perdre 5 de tes 11 titulaires et les 5 meilleurs joueurs de ton équipe le même été, en l'espace de 4 semaines, on va dire, c'est juste incroyable. Pour moi, c'est du jamais vu. Déjà, de se remettre de ça, ça va être très compliqué, même s'ils sont allés chercher des bons joueurs comme Manzambi, comme João Gomez, même s'il a pris un carton rouge dimanche. Mais je vois pas comment ils vont souffrir. Et je pense qu'à un moment, Unai Emery, qui a fait de la magie chez eux depuis son arrivée, il y a un moment où la baguette d'Harry Potter, elle fonctionne plus. Tu vois, il y a un moment où il peut dire abracadabra, ça fonctionne plus. Tu vois, c'est plus possible. Et j'ai peur pour Villa, j'espère me tromper, mais j'ai peur que ce soit cette saison où finalement, il y a eu trop de ventes. Il y a trop de nouvelles arrivées de joueurs qui sont beaucoup plus jeunes, qui n'ont pas encore assez prouvé, qui vont devoir découvrir la Première Ligue et qui vont vraiment trop souffrir.
Voilà, pour Aston Villa, c'est le crash de Julien en Première Ligue. C'est la dernière saison d'Unai Emery. On va suivre ça, bien sûr. Julian Alvarez, lui, aurait aimé que la saison dernière soit sa dernière à l'Atlético de Madrid, Edgar. Bloqué par ses dirigeants, il voulait partir, il l'a dit, il a assumé, au Barça en particulier, bien sûr. Il a été conspué. Je sais pas si on allait siffler concernant Julian Alvarez. Écoutez ça, c'était au Civitas Metropolitano. Bronca énorme, banderole, ouais, dégage, hors du club. Simone a dû en parler en conférence de presse.
Des insultes, c'est
toute la soirée.
Tu
dis quoi, Julien? Oui, il s'est fait insulter, oui, il a pris des insultes et tout. Ouais. La majorité des supporters des Colchoneros veulent le voir dégager, ce qui n'est pas le cas des dirigeants, mon cher Edgar.
Bien sûr, mais pour simplifier la situation, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, Julian Alvarez, il a fait n'importe quoi. Je veux dire, t'as un contrat jusqu'à 2030, t'es en pleine Coupe du Monde avec ta sélection et tu viens faire cet éclat-là pour dire que t'as envie de quitter le club. Ça n'a aucun sens, surtout quand tu sais, et surtout quand tu sais que tes dirigeants ont été très clairs avec toi et ont communiqué publiquement sur le fait que tu partiras jamais au Barça. Donc en fait, si ton rêve c'est d'aller au Barça, je veux dire, tu sais très bien qu'ils vont pas te laisser partir dans ce club-là, donc pourquoi tu pars autant au clash comme ça? Peut-être qu'il a été très mal conseillé. En tout cas, il se retrouve dans un sacré pétrin. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a que deux solutions. Soit il y a un accord miracle avec Arsenal, Julien, et ils sont prêts à mettre 150 millions d'euros comme ça, et il peut aller à Arsenal, et oui, c'était pas sa destination de rêve, mais il trouve une solution. Soit, eh ben, il va falloir qu'il relève la tête, qu'il arrête de regarder ses lacets, de regarder vers le bas, et d'avoir ce visage triste et abattu qu'on peut comprendre évidemment face à cette situation-là, et qui commence à tout donner sur le terrain, à s'arracher. Ça va prendre des mois et des mois et des mois, mais il y a que comme ça qu'il pourra de nouveau rentrer dans le cœur des supporters. Et je serais quand même étonné qu'il y ait une solution d'ici la fin du mercato, même si c'est pas encore terminé. Je pense que ça va se finir comme ça, et il faudra se rendre compte qu'il a fait une erreur et qu'il va falloir maintenant se faire pardonner, un petit peu comme Antoine Griezmann avant lui. Mais la différence, c'est qu'Antoine Griezmann, il avait déjà beaucoup donné pour ce club-là, qu'il a fait une erreur, il est parti, bon bah il s'est rendu compte, il est revenu. Là, Julian Alvarez, il est parti au clash après une saison où, vous savez, j'étais souvent assez dur avec lui, parce que je trouve que vu son niveau et vu ce qu'il a montré par exemple en Ligue des Champions, il n'était pas du tout, mais alors du tout à la hauteur en championnat. C'est pas comme s'il sortait de deux saisons extraordinaires, même s'il est très bon. Je pense pas qu'il ait prouvé qu'il était le leader indiscutable de ce projet, qu'il était capable de leur ramener quelque chose, puisqu'il a jamais remporté un titre avec cette équipe. Et derrière, tu demandes à forcer un transfert comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'aujourd'hui il en paye le prix. C'est pas une mauvaise personne, c'est pas un mauvais gars, mais il a fait une erreur et il va falloir se rattraper et essayer tant bien que mal de rentrer dans le cœur des supporters. Mais exactement. Ça va prendre très longtemps.
Ça va être très très long. Ils ont mis du temps à arrêter de siffler Griezmann notamment lors de ce
alors qu'il avait fait beaucoup plus pour le club.
Ouais, bien sûr. Bon, voilà pour Julian Alvarez. C'est parti. Ça part dans un instant entre Fulham et Chelsea, entre les deux ex largués par le Real Madrid, Alvaro Arbeloa et Xabi Alonso. Tiens, Polo, tu veux nous parler en ta minute ce soir? D'un retour du meilleur joueur de Bundesliga en 2021-2022. C'est parti, on envoie la musique pour Polo.
Alors, il s'appelle Cosmo. Je viens d'apprendre qu'il était le représentant de l'Autriche pour l'Eurovision.
Ah bon ?
Et dans sa chanson, il souhaite mettre un permis de danser pour voir si tu sais danser. Donc c'est une chanson très comique. Et pourquoi j'ai choisi cette chanson, ce permis de danser, c'est que justement, même si ce n'est pas encore officialisé, on l'attend pour la visite amicale, Nkunku pourrait faire son retour à Leipzig. Et j'ai reçu pas mal de critiques en disant Nkunku, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Et je crois que les gens ont oublié ce qu'était le Nkunku en 2022 en Bundesliga. C'est-à-dire que je rappelle qu'il avait en concurrence des Szoboszlai qui étaient sur le banc. Il y avait un certain Dani Olmo qui est au Barça aujourd'hui, qui était sur le banc aussi, parce qu'il y avait un Christopher Nkunku. Donc là, Leipzig va le récupérer pour un peu plus de 25 millions d'euros apparemment. Et moi, je suis toujours extrêmement heureux. Je voulais même pas qu'il parte, évidemment, tellement il était bon. Et je dis souvent qu'il y a des grandes réussites en Bundesliga, comme Ribéry, comme Olise en ce moment et tout ça. Mais le français qui était entre guillemets un grand espoir et qui a réussi en Bundesliga, je pense qu'il n'y a pas mieux que Christopher Nkunku et ce qu'il était. Maintenant, dans quel état vont-ils le récupérer à Leipzig à 28 ans, on verra. Mais en tout cas, je pense que c'est une excellente nouvelle pour le football allemand.
Et le meilleur joueur de la saison 21-22 en Bundesliga, ouais. 20 buts, 13 meilleur passes décisives but. À l'époque, il avait joué 34 matchs.
C'était monstrueux.
Wow. Christopher Nkunku qui revient. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Oh, à Milan, il n'a pas brillé, Nkunku.
On comprend pas qu'est-ce qui s'est passé avec Amorim, mais il a vu s'entraîner, il lui a même pas fait jouer un match et il a tout de suite mis à l'écart. C'est vrai que l'année dernière il avait l'air pas très en forme, ouais. Il était très limité physiquement.
Quelques blessures récurrentes aussi, ouais, c'est ça.
Ouais, mais là,
quand il arrive à Chelsea, de mémoire il se blesse quoi. Il dure, bah oui. Il fait pas de saison.
Ouais, puis tu sais, il avait signé à Chelsea en janvier pour arriver l'été d'après. Ça. L'entraîneur avait changé. Rien que ça, ils avaient fait n'importe quoi aussi déjà.
Non, mais ça, c'est extraordinaire parce que c'est l'une des énigmes les plus intéressantes du football. C'est comment se fait-il qu'un joueur soit monstrueux, parce qu'il était monstrueux, meilleur joueur de Bundesliga, mais tout le monde, hein, les syndicats de joueurs, les clubs, tous les journalistes, tout le monde, il n'y avait que lui. Hein, et même l'année d'après, si je me rappelle bien, était meilleur buteur de la Bundesliga, peut planter sa carrière de cette façon. Les blessures, c'est peut-être pas que la seule explication, mais en tout cas, se planter et ne pas réussir à se relancer en Italie. Donc moi, je suis extrêmement curieux de ce retour. Je suis super heureux, mais dans quel état ?